en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'un des grands classiques du théâtre français. L'histoire d'un homme seul qui hait les hommes et le genre humain, mais qui aime passionnément une femme. Un atrabilaire amoureux, comme le dit le sous-titre de cette comédie en 5 actes en vers, écrite par Molière lui-même et jouée par la troupe du roi au Palais Royal en 1666. Dans le rôle titre, celui d'Alceste, l'auteur, un rôle repris actuellement par un géant du cinéma, Lambert Wilson, dont la voix de baryton résonne d'intransigeance, d'idéalisme, d'amour et de souffrance. Le misanthrope de Molière, mise en scène de Peter Stein, est à l'affiche du Théâtre Libre à Paris et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Lambert Wilson.
Bonjour.
Pour un homme qui aime les textes comme vous, c'est la première fois que vous jouez Molière devant le grand public comme ça ?
C'est la première fois, mais pas complètement, parce que un des premiers spectacles que j'ai fait en tant que jeune acteur, mis en scène par Jean-Louis Barrault, contenait des extraits de Psyché. C'était un spectacle qui s'appelait L'amour de l'amour et je jouais Cupidon. Et puis la première fois que j'ai joué quoi que ce soit, c'était Trissotin dans Les Femmes Savantes au lycée, j'avais 12 ans.
Vous étiez à l'école, hein, effectivement, oui, à ce moment-là. C'est ça votre premier contact avec avec Molière ?
Le premier contact avec Molière, c'est le fait d'avoir découvert dans les classiques Larousse, à ma grande surprise et aussi à l'amusement général de la classe, une photo de mon père, accompagné de Jacques Dufilho, donc de mon père George Wilson, qui jouait Philaminte dans Les Femmes Savantes, avec Jacques Dufilho qui jouait Bélise,
voilà, autrement dit. Donc un rôle féminin.
Deux femmes dans la troupe du TNP. Donc ça, c'était la surprise initiale. Ouais,
qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que ça doit faire drôle quand
beaucoup
même devant
de fierté,
ses camarades.
Beaucoup de fierté, parce que je crois que ça avait été un duo particulièrement drôle. Dont la réputation finalement avait traîné jusqu'à mes premières années, donc je crois qu'il en était très très fier et sans doute il a dû être extrêmement comique dans le rôle.
Et aujourd'hui là sur la scène du Théâtre Libre, c'est à lui, c'est à votre père que vous pensez quand à votre tour vous jouez Molière?
Je pense à lui très souvent dans le mélange des genres qui est une spécialité de Molière, à la différence de Racine, qui reste dans la tragédie, sans beaucoup d'humour. Mettre de la tragédie, de l'humour chez Racine, c'est un petit peu compliqué. Mon père aimait énormément allier, à la façon du théâtre élisabétain, le drame et le comique. Il a été par exemple un matamor merveilleux dans l'illusion comique de Corneille. Et j'aime bien mélanger ces couleurs dans la palette du pathétique, voire du tragique, et du comique et du ridicule. Ça, c'est quelque chose que... C'est une façon de lui rendre hommage, oui.
Alors, le personnage d'Alceste, il est pathétique ?
Oui, il est pathétique parce qu'il aime. Donc, l'origine du mot, c'est un homme qui souffre. Il est en crise. Vous disiez, commencez par la description d'un personnage qui est l'humanité. Je pense qu'il ne la haïssait pas au départ. Je pense qu'il l'idéalisait. C'est un homme en quête d'absolu qui est déçu. Et il commence la pièce en faisant état de son désamour de l'humanité. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a été brisé chez lui. Il a placé l'homme trop haut. Il ne peut pas vivre avec la médiocrité. Mais il n'est pas sec. Au contraire, il aime se voir aimant, c'est assez narcissique sa façon d'aimer. Malheureusement, il a choisi un objet pour déposer son amour qui est le contraire absolu de ses valeurs, autrement dit une femme qui aime la société, qui aime médire et qui aime la compagnie des gens qui médisent eux aussi, une hypocrite on va dire. Mais il n'empêche que sa crise d'amour est très intense. Et c'est ça, finalement, que j'ai voulu proposer avec la mise en scène de Peter Stein, c'est-à-dire de me concentrer peut-être un peu plus sur le deuxième titre de la pièce, L'atrabilaire amoureux, plutôt que sur le misanthrope.
Et très vite, Alceste expose sa philosophie de la vie dès le début de la pièce à son ami Philinte, qui est joué par Hervé Briot. Son ami,
c'est peut-être
un peu vite en besogne, parce que lui refuse justement de donner le titre d'ami à Philinte.
Mais comme on le fait avec ses meilleurs amis, avec ses frères d'âme, on dit mais vous n'êtes plus mon ami, c'est fini entre nous. Alors que 5 minutes après, il se confie à lui sur ses amours. Il a besoin de lui, c'est son meilleur ami. Et avec les meilleurs amis, on peut aller très loin dans la fâcherie.
Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Mais je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations. Et je n'estimais rien qu'estimer tout le monde. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
Tant mieux, morbleu, tant mieux.
Bonjour, Forestier.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de littérature française à l'université Paris-Sorbonne, grand spécialiste du théâtre du XVIIe siècle. Vous êtes l'éditeur des œuvres complètes de Racine et de Molière dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Vous avez publié en 2006 une biographie de Racine et depuis quelques mois, à l'automne dernier, vous êtes également le biographe de Molière chez Gallimard. Un livre, je crois d'ailleurs, Lambert Wilson, que vous avez compulsé pour préparer.
Je suis en train de le compulser et puis je le trouve merveilleux et puis je connaissais bien entendu le travail de Monsieur Forestier parce que j'ai lu sa biographie de Racine qui m'a été très utile quand j'ai mis en scène Racine et c'est absolument passionnant, c'est un livre merveilleux.
C'est important de se plonger dans la biographie des auteurs lorsqu'on met en scène ou lorsqu'on joue un de leurs personnages.
Quand on met en scène, absolument nécessairement, la dramaturgie est nécessaire, on doit tout savoir, plus on sait, plus, voilà, plus on avance, mais certains ne le font pas. Pour moi, c'est nécessaire, mais on ne lit jamais assez. Il faudrait vraiment tout connaître. À ce moment-là, on peut prendre des décisions. Par ignorance, on ne fait que prendre des décisions instinctives qui parfois rejoignent les bonnes décisions qu'une personne très savante pourrait prendre. Et puis c'est passionnant parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement passionnant et divertissant.
Ça veut dire que vous, votre travail, Lambert Wilson, vous le vivez comme une manière de rendre hommage à l'auteur et de coller le plus possible à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a voulu dire à travers sa pièce, à ce qu'il a voulu éventuellement mettre en scène, puisque Molière était aussi metteur en scène.
Alors, j'ai fait de la mise en scène de théâtre, j'ai fait ça avec Racine, avec Marivaux et avec des auteurs contemporains. J'essaie, comme l'a fait Peter Stein, notre metteur en scène de ce misanthrope, j'essaie absolument de révéler avant tout la pensée de l'auteur, le sens de l'auteur, la langue de l'auteur. Les désirs personnel d'un metteur en scène qui voudrait révéler sa propre imagination, sa patte, donner une forme. Tout ça, je trouve, c'est petit par rapport à la pensée d'un auteur aussi considérable que Molière.
Alors, Georges Forestier, vous consacrez évidemment un chapitre de votre livre au misanthrope. Vous l'avez intitulé « Le chantier du misanthrope ». On reviendra sur les conditions de création de la pièce dans un instant, mais je voudrais, puisqu'on a déjà commencé à le faire avec Lambert Wilson, parler un instant du personnage d'Alceste et de cette misanthropie. Donc, Lambert Wilson disait qu'il préférait l'expression atrabilaire amoureux au mot misanthrope même. Mais comment est-ce que vous l'analysez, la misanthropie d'Alceste, Georges Forestier? C'est une misanthropie innée ou une misanthropie acquise, comme le suggérait Lambert Wilson?
Moi, je dirais que c'est une misanthropie plaquée. Je m'explique. Parce que, comme mon travail de biographe, c'est pas seulement de faire la biographie au jour le jour, c'est aussi d'essayer de rentrer dans la tête de l'auteur pour comprendre comment il fabrique ses pièces, eu égard à ce qu'on sait aujourd'hui des conditions d'écriture des pièces de théâtre du XVIIe siècle.
Le chantier, on y revient.
Voilà, c'est le chantier. Et du coup, quand on regarde le chantier du misanthrope, on s'aperçoit qu'en fait, à l'origine, il était parti d'une comédie de salon qui s'appelle La critique de l'école des femmes, dans laquelle il y avait deux cousines qui recevaient chez elles des gens qui venaient parler de l'école des femmes qu'ils venaient de voir. Il y avait les marqués ridicules, etc. etc. Et il a voulu dynamiser cette comédie de salon, en faire une grande pièce en cinq actes, et il a cherché un fil conducteur. Et son fil conducteur, ça a été la jalousie, justement, d'un personnage qu'il était en train d'abandonner, qui s'appelle Don Garcia de Navarre, dans une pièce imitée d'un original italien, que les Italiens représentaient presque chaque année à Paris à ce moment-là, qui s'appelait Les Jalousies de Don Rodrigue. Et pour dynamiser ça, comment dynamiser une comédie de salon? On le voit bien quand on voit ce beau spectacle que j'ai eu la chance de voir hier, justement. On voit bien que c'est une comédie de salon, que tout se passe là-dedans. Donc comment dynamiser? Et puis, il a repris en même temps un principe qui est celui des fâcheux, c'est-à-dire un homme qui veut obtenir... Dans les fâcheux, c'est un rendez-vous. Là, c'est un aveu, enfin une explication définitive d'une femme et qui est constamment retardée par des importuns. Et cet homme, c'est un jaloux absolu. Et donc, d'où le titre initial auquel il avait songé, c'est l'atrabilaire amoureux. Mais il se trouve que c'est une pièce qu'il avait conçue en 64, au début 64, et à ce moment-là, parallèlement, il concevait une petite pièce en trois actes qui s'appelait Tartuffe.
Oui.
Qui a été interdite en 64, et du coup, pour défendre Tartuffe, il a commencé à transformer Tartuffe, à rajouter des actes, l'actuel acte 2, puis l'actuel acte 5, mais en même temps, il a mis un peu son chantier sous le boisseau, mais il a continué, et il a fallu qu'il adapte sa comédie de salon, à la nouvelle image qui s'était donnée. C'est-à-dire que quand il dit le but de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes, il l'avait jamais dit avant l'interdiction de Tartuffe. Quand on lit ce qu'il dit dans la critique de l'École des femmes et dans l'imprentu de Versailles, il dit qu'il s'agit de plaisanter avec les comportements des hommes, c'est-à-dire un rôle d'humoriste, comme on dit aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, il se pose en moraliste. Et donc, du coup, cette comédie de salon dans laquelle, évidemment, c'est du Molière tout cru depuis le début, c'est-à-dire faire rire des comportements des hommes en société, eh bien, ne cadrait plus avec son point de vue moral. Et c'est la raison pour laquelle il a eu l'idée de transformer cet Trabillaire amoureux en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en faire un misanthrope. Et on voit bien que les deux seuls moments où il est question de misanthropie, c'est l'acte 1, scène 1, et l'acte 5, scène 1. C'est les deux moments où il expose ça. C'est-à-dire que ça, selon moi, c'est des rajouts. Mais quand Molière fait des rajouts, c'est génial.
Oui, donc mais alors, souvent, chez Molière, je parle sous votre contrôle, hein, Georges Forestier, le nom, la sonorité des noms des personnages pose déjà un peu le caractère hein, du personnage en question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du nom même d'Alceste ?
Le problème d'Alceste, c'est qu'il est double. C'est-à-dire, Alceste, il y a la plus merveilleuse figure féminine de l'Antiquité qui est Alceste dans la pièce d'Euripide, qui s'appelle Alceste, qui est la femme dévouée, etc. Mais en même temps, Alceste masculin, c'est le combattant. Donc voilà, c'est ça. Donc du coup, évidemment, c'est à ça qu'il a pensé. Mais Molière ne réfléchissait pas toujours en termes de lester ces noms de sens véritablement important.
Et pourtant,
allez-y, on va vous
attendre. Et pourtant, Philinte, son
c'est
ami,
c'est l'amour de l'ami.
Voilà, Philinte, ouais. dans la racine du mot.
Hein. La cousine. Éliante, le soleil, oui. Personnage assez rayonnant, solaire, douce. Après, je me suis amusé un petit peu avec ça. Bon, Célimène, j'ai pas trouvé encore.
Mais Célimène, c'est un nom d'inhumaine, si je puis dire. La belle inhumaine, celle qui n'aime personne et qui est aimée partout dans des pastorales du début du siècle.
Ah, voilà.
De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble.
Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux.
C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.
C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Soyez content.
Morbleu, faut-il que je vous aime?
Demeurez.
Je ne puis.
Je le veux.
Point d'affaire, ces conversations ne font que m'ennuyer, et c'est trop que vouloir me les faire essuyer.
Je le veux.
Non, il m'est impossible.
Voilà, Célimène incarnée par Pauline Chevillier, hein, tout en grâce, en légèreté, en coquetterie, en costume coloré aussi, à côté du très noir personnage que vous incarnez, Lambert Wilson, sur la scène du Théâtre Libre. C'est vrai que le contraste entre les deux personnages est visuellement très fort, il l'est aussi au niveau du caractère. Quoi est-ce qu'on a d'un côté la sincérité, l'intransigeance d'Alceste, et de l'autre, Lambert Wilson, la légèreté, l'hypocrisie peut-être aussi de Célimène?
Vous savez, je pense que finalement ces deux personnages sont très proches l'un de l'autre, ils se répondent. Il y a un effet miroir, parce qu'elle elle aime la société, elle a envie de s'amuser pendant un temps de son veuvage, jeune veuvage, et de flirter avec les hommes, d'exercer son pouvoir sur eux. Mais elle les déchire à belles dents en société, avec la même lucidité froide que celle d'Alceste. Et curieusement, ils sont faits l'un pour l'autre dans leur intelligence, dans presque leur vision du monde. Et ils ne se rencontrent pas au bon moment. Je pense qu'elle aurait pu partir avec lui et ce couple aurait pu être extraordinaire. Après, se pose véritablement la question de savoir si ils s'aiment véritablement, oui. Et si l'un et l'autre sont capables d'amour.
Bon, ça, c'était la question suivante.
Ce qui n'est pas sûr, parce que il y a trop de jeux de miroir. Elle, Elle est sensible en partie à ses charmes, mais elle est trop curieuse de tout, ce qui fait qu'elle n'est pas dévouée à lui.
Elle est peut-être trop jeune aussi.
Elle est immature et aussi elle est déconcentrée parce qu'elle a trop de, elle s'amuse trop, il y a trop de monde charmant.
Mais elle est consciente hein, des sentiments d'Alceste quand même. Célimène, est-ce que ça lui plaît pas un peu finalement de le faire souffrir? De jouer avec lui, de faire rire de lui.
Je pense que c'est pas de lui seulement que ça lui plaît.
C'est de la vie, en
général. Non, c'est des autres hommes. La définition de la coquette au XVIIe siècle, c'est pas la même définition qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la coquette, c'est pas seulement celle qui cherche à plaire. C'est celle qui cherche à plaire et à engager les hommes. C'est pour ça qu'elle écrit des lettres qui vont la confondre à la fin, évidemment. Mais elle cherche à engager les hommes. C'est-à-dire, c'est en cela que c'est une attitude non galante, comme on disait au XVIIe siècle. C'est-à-dire que ils ont tous une attitude non galante, sauf Eliante et Philinte. Hein. Tous les autres, c'est des caricatures de ce qu'il faut pas faire en société.
Et finalement, quel est son objectif quand elle veut engager les hommes? Elle veut les punir ou
Non, je pense
les
pas.
Les faire souffrir?
Non plus. Elle veut être l'objet. C'est une question de possession. Elle veut posséder tous les hommes, comme Alceste, lui, veut posséder une femme qui est.
Donc
qui
c'est
est
une question pouvoir, alors, d'une certaine manière,
d'une certaine manière.
D'empire sur les hommes autour d'elle.
Et c'est vrai qu'en même temps, Molière joue avec la seule condition féminine au XVIIe siècle qui permet cette attitude-là, c'est-à-dire cette liberté-là. C'est-à-dire, seule une veuve n'est pas sous la domination d'un père, d'un frère ou d'un époux. Et c'est la raison pour laquelle elle est dans cette liberté.
Mais est-ce qu'Alceste ne fait pas aussi un petit peu peur à Célimène par son intransigeance, par son côté entier? On parlait de l'écart de génération tout à l'heure.
Il y a de quoi. Je ne sais pas si c'est pas l'écart de génération. Molière avait 21 ans de plus que sa femme. Malgré les calomnies qui sont apparues bien après la mort de Molière, il y avait rien de pas. Donc du coup, je ne crois pas que ce soit l'écart de génération qui joue. Mais en revanche, ce qui fait peur, c'est l'absolue possession. Le désir d'absolu de possession de la part de vis-à-vis de quelqu'un qui ne veut absolument pas être possédé et qui au contraire veut papillonner autour de tous les hommes.
Résultat, Lambert Wilson, Alceste souffre hein, et on vous entend sur la scène du Théâtre Libre pousser des cris. Ça se voit dans votre voix, dans vos intonations. Ça se voit dans votre corps aussi. Il est complètement amoureux de cette femme et il se rend compte qu'il ne peut pas aller au bout de son amour. C'est-à-dire que cette femme est à la fois complètement pour lui, mais il ne peut pas y accéder, par principe.
Alors j'ai voulu absorber, inconsciemment, je l'ai fait, ce qui a suivi le XVIIe siècle, c'est-à-dire aussi bien le romantisme français que l'extrémisme russe. Je ne peux pas ne pas le connaître. C'est très difficile pour moi de mettre à distance ces nouvelles informations culturelles de l'histoire de l'homme. Mais j'ai absorbé ça et je l'ai trouvé dans la partition, pour vous dire la vérité. Quand il arrive, trahi, on va dire, puisqu'il a découvert les lettres, la lettre, il dit des choses tellement incohérentes qu'il m'a semblé me rappeler ces personnages qu'on trouve chez Dostoïevski, des personnages complètement en crise de folie, et ses gestes deviennent complètement extrêmes, incohérents. Il va proposer, pour se venger momentanément, sa main à la cousine, puis l'oublier immédiatement. Il dit des choses insensées.
Il perd les pédales, comme on pourrait
dire
aujourd'hui.
Oui, moi j'ai voulu... D'abord parce que la souffrance de l'état amoureux m'intéressait plus que la misanthropie. J'ai entendu une petite voix d'une douleur qui m'intrigue beaucoup par rapport à Molière d'ailleurs. Cette souffrance d'amour, je pense qu'il l'a expérimentée parce que il y a quelque chose qui est tellement bien choisi dans ses mots. Je pense qu'il savait de quoi il parlait.
Mais alors justement, vous êtes bien d'accord, hein, puisque vous avez vu la pièce, hein, Georges Forestier, dans l'atrabilaire amoureux, c'est vrai qu'on a plus l'impression, lorsqu'on est dans la salle, que c'est plus le côté amoureux qu'atrabilaire, finalement, que Lambert Wilson met en valeur.
C'est l'amour qui provoque de la bile, l'amour, donc du coup, non, je crois que la synthèse est parfaite. Mais ce que disait Lambert Wilson, c'est-à-dire que cette vision romantico-dostoïevskienne qu'il donne au personnage...
Il y a une forme d'âme russe, quand même, à travers...
Oui, non,
travers ce personnage.
C'est ce qui est fort chez Molière, c'est qu'on peut effectivement trouver dans ces égarements de ces personnages principaux. Quand on regarde l'école des femmes, Arnolf, il y a un moment donné où il est complètement égaré au quatrième acte, quand il se rend compte que sa créature lui échappe, qu'il lui dit « Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux ?» Je veux dire, c'est l'homme qui avait la maîtrise au début devient cela. Et donc, il y a de cela. Et c'est pour ça qu'on peut tirer Molière dans des mises en scène qui sont tragicomiques. C'est ça qui le permet. C'est ça qui est la force de Molière.
Alors, vous savez ce qu'on dit. On a dit beaucoup de choses sur Molière. D'ailleurs, sur la quatrième de couverture de votre livre, vous rappelez, enfin, ou l'éditeur rappelle,
c'est
je sais pas, c'est l'éditeur qui rappelle qu'il y a eu beaucoup de légendes, beaucoup de fables ont circulé sur son compte. Il y a quand même quelques vérités, peut-être. Alors, on a dit, par exemple, qu'Alceste, ben, au fond, c'est le personnage de Molière lui-même. C'est
oui,
vrai.
Oui, mais ça, non, c'est faux. C'est faux, mais il se trouve que, depuis l'Antiquité, quand on écrivait des vies, c'est-à-dire des biographies, on appelait ça des vies autrefois, et qu'on n'avait rien sur Euripide, Sophocle, etc., qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher dans leurs œuvres des éléments qu'on prêtait aux auteurs, et le problème, c'est qu'après, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que c'est à partir de là que, alors on n'a rien sur Molière, sauf des témoignages qui sont postérieurs, qui sont
issus d'anecdotes. Il n'a pas laissé d'écrit, il n'y a aucune archive écrite de sa main, de lettres.
Il n'a pas eu la chance d'avoir deux fils comme Racine, qui ont sauvé 200 lettres sur les 40 000 qu'il a écrites, hein. Donc, vous voyez. Donc, on n'a rien. Et du coup, on a construit, son intimité, parce que quand on n'a rien, on n'a pas d'intimité. Donc il faut fabriquer de l'intimité lorsqu'on raconte...
La nature a horreur du vide, donc il faut combler.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher dans le Misanthrope des éléments qu'on a prêtés à Molière, et ce qui est fort évidemment, c'est qu'après on interprète le Misanthrope en disant c'est Molière, etc. Donc c'est un phénomène assez récurrent qui touche à tous les auteurs jusqu'au 18-19e siècle.
Mais quand Alceste s'en prend au phénomène de cour, hein, à l'hypocrisie des courtisans, est-ce qu'il s'en prend pas finalement un petit peu à Molière lui-même?
Oui, si vous voulez, mais ça, c'est le fait que Molière ait pu avoir cette attitude galante par excellence qui était l'autodérision, ça c'est un fait. De toute façon, ça fait partie. Il se trouve que le principal public de Molière, celui qui est allé voir le Misanthrope, qui a applaudi toutes les pièces de Molière, c'est pas le public populaire. Le public populaire ne pouvait pas se payer le prix d'une place de théâtre, c'était aussi cher qu'aujourd'hui, si c'était pas plus cher. Donc, ceux qui allaient voir et applaudissaient ce spectacle-là, c'est les gens que Molière caricaturait lui-même.
Ce sont les Orontes, par exemple.
Oui.
Et ce qui m'est pas... Ce qui m'épate, c'est que j'ai lu que dans, justement, on parle du personnage d'Oronte qui veut lire à Alceste un poème ridicule.
Le fameux sonnet.
Le sonnet, quand la pièce a été représentée à Versailles, les spectateurs ont applaudi au premier degré ce poème qui était en principe ridiculisé par Molière. Et la critique vient derrière. Alceste va détruire ce poème. Mais au premier degré, le public a applaudi, pensant que c'était merveilleux.
Oui, mais c'est un de ces poèmes, comme il y en avait milliers qui paraissaient, qui étaient recueillis dans des recueils qui étaient très à la mode dans les milieux galants, justement. Et effectivement, ce qui est comique dans la scène, c'est le fait qu'un Oronte ait une attitude anti-honnête homme, parce qu'un honnête homme, on le dit dans des textes, hein, pour comprendre le Misanthrope, il faut aussi lire, mais c'est un livre qui fait 10 000 pages, hein, Artamène ou le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry. Et on a tous les types de personnages qu'il y a dans le Misanthrope. Et notamment celui qui veut à tout prix lire ses œuvres. Et celui-là, il est considéré comme n'étant pas un honnête homme. Parce que l'honnête homme attend qu'on le supplie de lire les poèmes qu'il a écrits et il ne s'offusque pas des jugements.
D'accord, donc
négatifs.
C'est l'anti-honte alors.
Exactement. Donc,
est-ce qu'il prenait un risque incroyable d'écrire et de présenter cette pièce à Versailles? Parce que quand même, il critique énormément l'aristocratie.
Pas du tout. Parce qu'en fait, quand... comme il se trouve que à la Sorbonne on a une troupe de théâtre qui dans le spectacle actuel c'est les Fâcheux. Et il se trouve que les Fâcheux, donc je les ai beaucoup vus. Et quand on regarde les Fâcheux et qu'on regarde le Misanthrope ensuite, hier soir j'ai été frappé comme je l'avais jamais été par le fait que ce sont les mêmes personnages. Or les Fâcheux ont été créés à Vaux-le-Vicomte sur la demande de Fouquet pour être joués devant toute la cour venue de Fontainebleau avec le roi, et tout le monde, chacun a cru reconnaître l'autre, a cru reconnaître le voisin, et ça a été un triomphe. Et le Misanthrope c'est exactement pareil.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Une émission autour du misanthrope de Molière avec le comédien Lambert Wilson et le professeur de littérature et biographe de Molière, Georges Forestier. Alors, ce texte, Lambert Wilson, vous en aviez déjà lu, déjà dit quelques lignes. C'était au cinéma, dans Alceste à bicyclette, le film de Philippe Le Guay en 2013 avec Fabrice Lucchini. Extrait.
Bon, comment on fait?
Allez, à toi l'honneur, mon gros.
Non, t'es sûr que c'est une bonne idée de tirer un pile ou face?
Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus évident. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais.
Bon, si tu veux. Bon, c'est toi qui fais Alceste. Bon,
redonne-moi mon euro, s'il te plaît.
Qu'est-ce donc qu'avez-vous?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher. On peut pas recommencer, non?
Qu'est-ce donc qu'avez-vous?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher, ne veux point t'entendre.
Dans vos brusques. Oh, non, c'est pas bien. Non, je suis pas du tout dedans.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami, enfin, je suis tout des premiers.
Moi, votre ami, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusque ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place sans des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez! Oh, excuse-moi, pardonne-moi, ne fais pas le hurler, le allez. Allez!
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez! Vous devriez...
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses.
Comment pourriez-vous, Lambert Wilson, nous décrire avec vos mots à vous, cette fois, la langue de Molière?
Alors, ce qui est très particulier dans... Il y a plusieurs langues de Molière, puisqu'il y a soit le Molière en alexandrin, plus formel, et puis le Molière en prose. Je veux simplement vous dire que j'ai eu énormément de mal à apprendre ce rôle. Moi qui ai joué Racine et j'ai joué Antiochus, Titus, sans aucune difficulté d'apprentissage, j'ai eu beaucoup de mal à mémoriser. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait... Il utilise une forme courtoise de sophistication qui s'apparente au langage de l'aristocratie, avec énormément d'inversions, et il entrecoupe ces scènes qui sont formelles, voire tragiques, avec un parler très quotidien. Quand il fait intervenir des serviteurs, il maintient les alexandrins, mais il les coupe. Et là, à ce moment-là, le parler devient très rapide. Alors, vous savez, il y a très peu de thèmes dans la tragédie racinienne. On fonce, il y a des concepts comme ça, avec peu de vocabulaire, et on déroule un processus mental qui est assez, assez simple, finalement. Chez Molière, il y a une photographie de personnages très différents. Donc, le vocabulaire change. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il y a la formalité de l'alexandrin, et un vocabulaire très riche, qui n'est plus le nôtre.
Alors ça, c'est très étonnant, parce que quand on est au collège, par exemple, Georges Forestier, d'élèves se disent, bon, Molière, c'est assez simple, on comprend à peu près, mais alors Racine, qu'est-ce que c'est compliqué? Oui, et là, il vient de nous dire le contraire, là, Lambert Wilson.
Mais non, mais c'est qu'au collège, qu'est-ce qu'on étudie de Molière au collège? Les Fauvrets de Scapin, c'est-à-dire...
Le médecin malgré lui.
Voilà, des pièces en prose, en plus. Oui, hein, donc, voilà. Du coup, ça roule de façon
mais
différente.
Mais l'école des femmes aussi peut...
L'école des femmes, c'est plus grand. Hein. Oui. On est plus grand. Hein. Oui. C'est au lycée, je pense.
D'accord, très bien.
Donc, voilà. Mais, non, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Lambert Wilson. C'est tout à fait ça. Et c'est une des caractéristiques de Molière. Quand on lit ce qu'il explique dans la critique de l'école des femmes, et surtout dans l'impromptu de Versailles, il a une manière à lui, qui est sa spécificité, de faire parler chaque type de personnage, chaque classe sociale, etc., à sa manière à lui. C'est-à-dire, et d'articuler même, parce que Molière était... l'équivalent de nos imitateurs, des meilleurs imitateurs d'aujourd'hui, hein. C'était le Laurent Gérard du XVIIe siècle. Non, mais on le voit il y a un passage dans les produits de Versailles où il imite les comédiens rivaux, et on sait que ça, il le faisait depuis 2-3 ans à la fin des repas. On l'invitait à faire ça. Et donc, il a une oreille toute particulière pour saisir les intonations, les sons, les voix et le vocabulaire.
Et il travaillait la musicalité de la langue de ces personnages.
Ça, on le ressent dans les personnages en fréquentant la pièce tous les jours. Les personnages s'expriment différemment. Oronte, l'aristocrate pompeux qui se targue de littérature, ne s'exprime pas du tout de la même façon. Il y a quelque chose d'assez démodé dans son langage, alors que Alceste est assez direct. Pour revenir sur où se place Molière dans les personnages, aussi en fréquentant la pièce tous les soirs, j'ai l'impression, si je peux me permettre, et sans doute je me trompe, que je l'entends dans deux personnages. Je ne l'entends pas dans Alceste, parce que clairement Alceste est critiqué par ses excès et c'est ridicule. En revanche, entre Philinte et celle qu'il courtise, Eliante, il y a une sorte de voix de sagesse, d'expérience. On a l'impression que le curseur de Molière, personnellement, se place entre ces deux personnages.
Tout à fait, parce que ces personnages-là développent une philosophie du juste milieu,
oui,
qui est exposée par les philosophes sceptiques du XVIIe siècle, notamment celui qui a été un maître spirituel, c'était le père de son meilleur ami, hein, qui s'appelait Lamothe Levaillé. Et Lamothe Levaillé explique constamment, je veux dire, les thèmes de Molière, on les retrouve chez Lamothe Levaillé, c'est-à-dire cette philosophie du juste milieu, cette médiocrité au sens noble du terme, qui fait que, et en même temps, c'est une posture philosophique, et en même temps, c'est un élément dramaturgique formidable, parce que depuis l'École des Maris, Molière met en place toujours deux amis, ou deux frères. Dans l'École des Maris, c'est deux frères, hein, Sganarel et Ariste, après ça va être Arnolphe et Grisalde dans l'École des Femmes, il y en a un des deux qui est justement représentant du juste milieu. C'est très intéressant de regarder l'École des Maris parce qu'on voit le vieux Iariste qui a 70 ans et qui est habillé à la mode. Il y a une discussion sur la mode. Et en fait, il y a Sganarel, joué par Molière, de 40 ans, qui est habillé à l'ancienne mode. Mmh. Un peu comme Alceste qui aime les chansons.
Qui est réactionnaire,
les chansons d'autrefois. Et ce contraste, pourquoi le vieil Iariste est habillé à la mode? Parce que la mode, c'est le moyen d'aller dans la meilleure type de civilité possible. C'est la complaisance, vertu des galants, honnie par Alceste, celle qui permet la vie en société.
Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate.
C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime.
Et moi, je soutiens...
Brisons-là ce discours. Dans la galerie, allons faire de tout.
Lambert Wilson, comment est-ce que l'on dompte l'alexandrin moliéresque?
Alors, c'est passionnant parce que j'adore l'alexandrin de façon musicale, sensuelle presque. Je me sens très à l'aise dans l'alexandrin, j'adore parler en alexandrin. Mais celui que j'ai pratiqué jusqu'à présent était en premier lieu l'alexandrin de Victor Hugo, alors là, qui mirlitonesque un petit peu, c'est un petit peu comme dans Cyrano aussi, et il est très confortable, il est très romantique. Après, je me suis forcé à respecter l'alexandrin racinien. Ce qui est particulier dans la proposition qu'a voulu faire Peter Stein, c'est qu'il a voulu sculpter la langue comme un metteur en scène étranger. C'est-à-dire qu'il parle français, il est linguiste. Mais je pense qu'il a voulu appliquer à cette langue ce qu'il ferait en allemand, ce qu'il aurait fait en allemand, ce qu'il aurait fait en anglais. Autrement dit, en anglais, quand on étudie Shakespeare, quand on joue Shakespeare, on doit sortir du texte ce qu'on appelle des mots opératifs. Autrement dit, les mots qui donnent le sens à l'intérieur d'une phrase dense et poétique. Mmh. On va souligner un mot qui va donner tout le sens à la phrase, ou deux mots. Et Peter Stein a voulu ça de nous, ce qui est très inattendu dans la tradition française, parce qu'en fait, on aime beaucoup la fluidité, la ligne de chant d'une phrase, avec ses deux fois six pieds. Même là, en entendant les extraits, je me rends compte du travail qu'on a fait avec Peter Stein, qui pourrait en choquer certains, où des mots sont très appuyés. Alors ça aide la clarté de compréhension. Je pense que ça fait quelques dégâts à la beauté du style. Mais en même temps, c'est une langue tellement dense pour un public moderne que je trouve que c'est plutôt pas mal aussi que la pièce soit claire.
Georges Forestier.
Oui, mais surtout que dans la mise en scène de Peter Stein, l'alexandrin est extrêmement respecté parce que le public d'aujourd'hui, il a vraiment l'habitude de voir des spectacles dans lesquels l'alexandrin, on l'entend plus parce qu'on veut le transformer en prose, etc. Alors que là, justement, ce que vous faites remarquer, ça m'a pas choqué. D'accord. du tout.
J'ai adoré travailler avec un grand spécialiste du 17e de la langue pour mes mises en scène de Bérénice, François Regnault. Mm-hmm. Alors voilà, j'ai appris avec lui à oser faire les liaisons.
Toujours délicat.
Mais tellement voluptueux. Je veux dire, ça devient... Au départ, on a un petit peu honte parce que ce sont des sons qui sont étranges. Et oui. En fait, après, ce qui m'arrache l'oreille, c'est quand les liaisons ne sont pas faites, ou un pied n'est pas respecté. Alors bien entendu, il ne faut pas être mécanique, c'est à respecter ces 12 pieds. Il faut qu'ils soient présents, mais souplement présents. Et par exemple, quand on dit un rang... R-A-N-G à disputer et que ça devient un rang K disputé, personnellement je trouve ça sublime. Mais c'est, vous savez, moi je fais de la musique et je fais du chant classique, c'est le legato dont on parle en musique. On ne devait pas interrompre la ligne de l'Alexandrin, sinon elle est mystiche. Et donc, ou alors il y a un mot qui fait, avec un point d'exclamation, il y a un arrêt, et ça c'est très fort. Mais c'est très très beau le legato dans une phrase musicale qui est un Alexandrin.
Moi je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom Alceste. Nous on l'appelle Zantop, c'est notre ami Zantop. Bonjour la mise à top. Quand il est à Saint-Top, il vit comme un ascète. Ils sont jamais là-bas, mais quand il est à Sète, il vit comme à Saint-Top. Toute la nuit il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à cette, il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là, à la fin il a tout vu, il lui dit ce qu'il pense. N'est pas content du c'est, il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah parce que c'est son mot ça, parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes ils sont à feu. Et quand il s'arrête de danser, il dit c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, et ça fait rigoler, oh 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 là là. Oh, oh, bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit agressant des Molières. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Ah, il aime pas qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Il aime pas la mode et je ne ai un temps que les contorsions. Il aime pas le jack de tous vos grands faiseurs de protestation. Il aime pas du tout. Viens, viens, ma Célimène, viens, viens, je t'amène. Allez, viens, va, laisse ses sapajous faire ensemble joujou. Ils dansent bien toute leur flatterie et leur cajolerie. Avec les mains, c'est rien que du chiquet, de la corde biquet. Ah, ça c'est son mot, ça encore. Parce que lui, il passe pour l'amour, pas besoin de faire des manières. Lui, tout de suite, allez, boum, boum. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais Célimène, c'est pas ça du tout. Elle veut pas tout de suite, boum, boum, parce que c'est une grande coquette. Et puis d'ailleurs, tu vas voir. Mais notre Célimène dit pas toujours amen, non. Oh non, au contraire, bien souvent, elle dit amen, non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçon plus amen, oui. Amen signifie doux, puis je suis pas sans dire, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour, y'a pas besoin de haute œuvre, va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attaper mon cœur. Et bien voilà. Et tout ça c'est de la diatribe. Elle est comme ça Célimène. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi. Seulement voilà, il n'y en a pas. Tout est loué depuis Pâques. Alors qu'est-ce que tu veux faire?
À la Bobby la pointe sur RFI, vous connaissiez visiblement.
Oui, j'adore cette chanson. La chute est géniale. Voilà. Tout est réservé. Il n'y a plus d'endroit sur la terre.
Voilà, c'est un bon résumé.
Oui, excellent.
Bon, en tout cas, ça montre une nouvelle fois combien Molière et ses œuvres sont ancrées dans la culture populaire. Hein. Les adaptations de Molière sont d'ailleurs toujours aussi nombreuses aujourd'hui. Quelques exemples avec Amélie Beaucourt.
Justice, justicielle, je suis perdu.
C'est sûrement l'adaptation la plus connue d'une pièce de Molière. Nous sommes en 1980 et Louis de Funès interprète un harpagon enragé lorsqu'il découvre que son argent a été dérobé.
Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support.
Molière est aussi adapté à l'opéra à plusieurs reprises, de façon très classique d'abord, puis petit à petit les personnages se rapprochent de notre imaginaire moderne. En 2016, Laurent Pelly met en scène Le médecin malgré lui, un opéra bouffe en trois actes. Le rideau s'ouvre sur la célèbre scène de ménage entre Martine, l'épouse en tablier, et Sganarel, le mari ivrogne en survêtement.
Votre peau, ma douce moitié, vous démange à votre ordinaire. Je vais vous frotter sans pitié. Ma petite femme, je vous lancerai. Je vous ai triomphé.
Pour rendre accessibles les textes du dramaturge au plus grand nombre, certains auteurs n'hésitent pas à les adapter en bande dessinée et parfois en chanson. En 2015, une troupe de jeunes comédiens, la Compagnie du Théâtre de Demain, met en scène les Fourberies de Scapin, version 21e siècle. Le personnage principal, valet stratège de la pièce, porte un sweatshirt à capuche et une veste en jean. Et voici comment il se présente.
Moi je suis pas ta petite copine, je suis la raclure de la bande. Je pars tellement, je t'embobine, j'en ai des fractures à la langue. Pardon, moi c'est Scapin, quand je me présente, si je suis vilain, ne t'en fais pas.
C'est que je plaisante. Comme les deux autres, je suis un balai.
Parfois, le langage classique du texte est traduit dans l'argot d'aujourd'hui, et ça marche. Surtout quand c'est Jean Rochefort qui se prend pour un professeur de lettres et explique le misanthrope aux enfants des années 2000.
C'est Alceste, un petit babtou chonchon qui traque les fauderches jusqu'au bout du monde. Il exige qu'on respecte son prochain comme la communauté de l'anneau. Pas de coup de pute, les golasses. Il glande avec son seul pote Philinte, un pur hypocrite, qui tartine le monoeil par devant et poignarde Pépouze par derrière.
Les formes se réinventent, mais le fond, lui, reste quasiment intact. Même trois siècles plus tard, Molière est toujours à la mode. Alors aujourd'hui, Alceste porte à la fois une perruque du 17e et une casquette à l'envers.
Question d'amour, je suis qu'un pigeon et je me vaute. Je l'aime, elle ne m'aime pas, elle passe ses nuits avec un autre. Dans les oreilles couches, ma courteur, je les aurais touches.
Frérot, t'es le seul à part. Amélie Beaucourt dans BMDN sur RFI. Alors là, on a vraiment l'impression que Molière est superstar, que Molière, c'est une icône pop aujourd'hui. Georges Forestier.
Ça a toujours été une icône. Déjà de son temps, il était une icône. C'était une superstar de son temps. Ça a été la première star. Il faut pas oublier que Molière, lorsqu'il est mort, il y a à peu près 90 ou 100 épitaphes qui ont été écrites pendant les mois et les années qui ont suivi. Aucun autre auteur de la littérature française n'a eu droit à ça. Une épitaphe, un tombeau, quelques regrets, mais donc et ça perdure depuis bientôt 4 siècles.
Bah, est-ce que vous avez une explication?
Est-ce que j'ai une explication? C'est ce que je me disais hier dans le taxi en rentrant du spectacle Les Misanthropes. Je devisais avec ma femme et quelle est la raison pour laquelle cette pièce elle est toujours aussi forte et pourquoi les pièces de Molière sont toujours aussi fortes? Parce que en ayant peint faire rire les comportements de ses contemporains, il a touché à l'essence de l'homme en fait, et ce qui fait qu'on retrouve à chaque génération, les mêmes types d'individus qui peuvent être habillés différemment, qui peuvent avoir la casquette à l'envers, etc. Mais ce sera quand même le même type d'individus.
Voilà, et c'est vrai que c'est exactement ce qu'on ressent effectivement quand on vous voit sur scène, parce que la mise en scène de Peter Stein est très classique. Vraiment, ce sont des costumes, des décors qui sont ceux du Versailles de l'époque, hein, pour faire simple et pour que chaque auditeur imagine vraiment de quoi il s'agit, Lambert Wilson. Et pourtant, on se dit que c'est un texte, mais qui résonne d'une façon moderne, d'une façon absolument contemporaine.
Je crois que ils sont très peu nombreux les auteurs de théâtre qui ont eu le talent de viser l'universalité de l'homme dans tous ses travers, ses qualités, ses souffrances. Bien entendu, on pense à Shakespeare, mais il n'y en a pas autant que ça. Souvent, les auteurs... Pensez par exemple à un grand penseur comme Voltaire, dont la philosophie est claire toujours. En revanche, son théâtre est resté très coincé dans le milieu du XVIIIe siècle. Molière décrivait, comme vous le disiez, l'homme, mais avec une grande acuité et aussi un grand spectre d'observation. C'est-à-dire qu'il étudie le comportement du pauvre, du paysan, du bourgeois, de l'aristocrate, donc finalement toutes les strates de la société, et tellement bien qu'on s'y retrouve siècle après siècle.
Moi, ce sont des caractères, des archétypes, ces personnages.
Oui, d'une certaine façon. Voilà, bien entendu, moi j'entends en ce moment beaucoup de gens qui réagissent à la misanthropie du premier acte et qui pense à la situation actuelle politique française. Et c'est drôle parce que, et notamment à la à une éventuelle corruption du pouvoir, à la crise des gilets jaunes, etc. Et ça me dépasse complètement. Ça me fait rire que les gens identifient immédiatement quand je parle de, il se plaint en disant je ne vois que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Les gens ont l'impression qu'on parle de maintenant.
Merci beaucoup à tous les deux. Lambert Wilson, le misanthrope ou la trébilaire amoureux, mise en scène Peter Stein au Théâtre Libre. Merci à vous, Georges Forestier, votre livre Molière de la collection des biographies NRF Calim.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction le Brésil avant de se quitter. Le mythique carnaval de Rio, l'événement le plus touristique de l'année, s'est officiellement terminé ce mardi avec les derniers défilés des écoles de samba. Mais les blocos, les groupes de musiciens de rue, continuent de défiler encore quelques jours. Pendant près d'une semaine, la ville vit donc au rythme de la samba, mais pas que, car la folie du carnaval est aussi propice aux revendications politiques. Reportage pour VMDN de Sarah Cozzolino.
Dans la famille Freitas, on change de déguisement tous les jours. Même les deux enfants de 10 et 4 ans sont de tous les blocos, les groupes de musique de rue. Pour Alexandre, le père, c'est une véritable passion.
On évite de voyager pendant cette période pour pouvoir profiter de tous les blocos possibles ici. Et toute l'année, on attend le retour du carnaval avec impatience. C'est vraiment un des plus grands moments de fête, d'expression et de manifestation culturelle qu'on a ici et qu'on aime vraiment beaucoup.
Une manifestation culturelle qui se transforme parfois en manifestation politique. En ce premier carnaval sous la présidence de Jair Bolsonaro, on entend beaucoup de chants et de slogans contre le nouveau gouvernement. Le costume d'Alexandre Freitas est d'ailleurs une critique du ministre de la Justice, Sergio Moro.
Nous vivons un moment politique crucial dans le sens négatif et les déguisements de carnaval sont aussi un moyen de manifester et de s'exprimer là-dessus.
Féministe et engagée à gauche, Maria Talita participe au carnaval depuis qu'elle est née. Elle défile avec une pancarte carnaval en deuil.
Le carnaval de rue est en danger parce que les politiques publiques vont à l'encontre du carnaval. Il n'y a pas assez de sécurité, de toilettes et la ville est complètement désorganisée. Donc cette année, il y a plus de confusion, d'agressions, de bagarres et tout ça va vider les blocos. C'est un vrai plan pour mettre fin au carnaval de rue.
Une menace que ressentent aussi les écoles de samba qui défilent chaque année dans le célèbre Sambodrome. En 2 ans, le maire conservateur de Rio, Marcelo Crivella, a réduit de moitié les subventions allouées au carnaval. Une baisse injuste au vu des retombées économiques d'un tel événement, selon Edson Marcos. Il fait partie de la mythique école de samba de la favela de Mangueira.
En fait, nous avons réussi pendant les tout derniers jours avant le carnaval à obtenir un soutien financier du gouverneur de l'État de Rio qui a beaucoup aidé les écoles de samba. Nous espérons que le maire de la ville sera sensible à cette action du gouverneur et qu'il pourra de nouveau investir dans le carnaval. Parce qu'une école de samba, ça n'est pas seulement une batterie et des danseuses, c'est une véritable résistance culturelle.
Cette année, le thème adopté par l'école sonne aussi comme une résistance. Mangueira met à l'honneur les héros oubliés de l'histoire du Brésil, des femmes, des noirs et des indigènes qui n'ont jamais fait partie des livres d'histoire. Un grand moment pour Edson, ingénieur et responsable de la logistique du défilé de l'école de Mangueira.
Eu tenho orgulho da minha escola.
Je suis fier que mon école puisse raconter l'histoire que beaucoup ne connaissent pas, de figures qui ont combattu pour le Brésil, donné leur sang, porté leurs idéaux pour un pays meilleur. C'est avec la plus grande satisfaction que je porte haut les couleurs de mon école, tout en sachant qu'on est en train d'inculquer des connaissances historiques pour de nombreuses personnes, pour mes enfants, mes petits-enfants et la société tout entière.
L'école rend aussi hommage à Marielle Franco, la militante des droits de l'homme, féministe noire et lesbienne assassinée l'année dernière. Après son défilé, Mangueira a remporté l'étendard d'or de la meilleure école de samba, un prix qui préfigure souvent le vainqueur officiel du carnaval qui sera désigné ce samedi. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour parler bande dessinée avec L'Abolition, une BD parue chez Glénat qui retrace le combat de Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort dans les années 70 jusqu'en 1980. Les deux auteurs, Marie-Gloris Pardieu-Vaillante et Malo Kerfrieden, seront avec nous demain et vous m'en direz des nouvelles.
Vivez